Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver et bienvenue à Marrakech. C'est dans ce joyau du Maroc que nous avons pu assister au Choiseul Africa Business Forum, 5e édition pour ce rendez-vous de l'investissement, rassemblement de chefs d'entreprise et de décideurs tous intéressés par l'avenir du continent au sens large du terme. Énergie, télécommunications, logistique, santé, assurance, inclusion financière, capital humain et intelligence artificielle, on aurait pu aussi dire éducation, autant de domaines et de paramètres entremêlés à ne surtout pas dissocier pour comprendre les difficultés mais aussi les possibilités de l'Afrique à la recherche de la place qu'elle mérite sur l'échiquier mondial. Nous avons donc rencontré sur les lieux de ces débats des personnalités engagées, chacune à leur manière, deux femmes, deux hommes, une Marocaine, une Sénégalaise et deux Congolais. Nous serons avec la directrice d'une grande compagnie d'assurance, avec celle d'une entreprise d'infrastructures télécom présentes dans 14 pays, avec un nouvel acteur de la finance et un autre de la tech formé chez les GAFAM en Californie et qui a décidé d'agir dans son pays d'origine pour que les jeunes Africains et les jeunes Africaines sautent quelques étapes vers un continent tourné vers l'innovation. Innovation dans l'économie et pas seulement dans la technologie. Voilà en effet le fil conducteur de cette émission. À vous de juger ce qui fait partie du rêve éveillé, voire de l'utopie, ou alors d'objectifs atteignables. Pour autant que les décideurs politiques, économiques, financiers et même la société civile s'y mettent ensemble. Écho d'ici, écho d'ailleurs, une émission à découvrir ou redécouvrir sur notre site internet RFI.fr et notre plateforme de réécoute Pure Radio.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et avant de faire la connaissance de nos invités, je voudrais que l'on entende quelques mots du discours d'ouverture prononcé lors de ce Choiseul Africa Business Forum de Marrakech par le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, dans la foulée des 10 milliards d'euros de contrats conclus avec la France, a dit ce qui manque, selon lui, en Afrique.
Nous avons beaucoup de promesses, beaucoup d'atouts, beaucoup d'ambitions. Mais force est de constater que ça traîne, ça ne va pas assez vite. Nos jeunes s'impatientent, y compris au Maroc. Nous avons les moyens de réaliser cette ambition. Nous avons l'intellect, les ressources humaines, même financières, quoi qu'on en dise, pour réaliser cette ambition. Qu'est-ce qu'il nous manque ? La première chose que nous avons constatée, notamment chez nous, au Maroc, c'est la confiance. Mais la confiance, on ne vous la donne pas. On ne vous l'offre pas. La confiance commence par la confiance en nous-mêmes, la confiance en nos capacités. Et c'est là la différence, pour moi, la seule différence entre un pays développé et un pays en voie de développement. C'est une question de confiance de la part du leadership. Ici, on sait faire plein de choses. Dans nos pays, on sait faire plein de choses. On le fait à la force du poignet. Mais dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a un logiciel à acheter, dès qu'il y a une canalisation à acheter, même si nos entreprises le font, eh ben, on ne leur fait pas confiance. Je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de feuille de route. Chaque pays, chaque environnement a sa propre voie, a sa propre feuille de route. Je n'ai qu'un constat, qu'une conviction. Croyons en nous, croyons en nos jeunes. Il n'y a que ça qui marche. Donnez-leur la confiance et ne leur donnez pas de la confiance que par la parole. Donnez-leur des marchés. Merci.
La confiance réciproque et l'ouverture des marchés réclamés par le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, le Maroc, puissance invitante de ce forum de Marrakech, où se sont donc côtoyés de nombreux chefs d'entreprise africains pour des débats, d'ailleurs pas toujours consensuels. Alors que les désastres liés au changement climatique se multiplient, pas qu'en Afrique d'ailleurs, faut-il continuer à miser sur les hydrocarbures pour rattraper les retards de développement ou alors mettre le turbo sur la transition? Alors que s'achève la COP20 en Azerbaïdjan, les avis divergent. En tout cas, qu'elles proviennent du Sénégal, du Tchad, du Niger, du Nigeria, des États-Unis ou encore de l'Espagne, les images de ces catastrophes naturelles remplissent nos écrans et entraînent pour la collectivité un coût économique majeur. Les pouvoirs publics ne pouvant l'assumer à eux seuls, il faut compter sur le secteur privé et les assurances, à commencer par les plus puissantes, comme AXA. Nous avons pu rencontrer sa directrice pour l'Afrique, la Marocaine, Meriem Chami. Bonjour, Meriem Chami.
Bonjour.
Quelques mots d'abord sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là ?
Écoutez, c'est une question d'ambition, c'est une question de volonté et de rêve et de travail. Et aussi d'accompagnement familial qui permet à une jeune femme marocaine, africaine, musulmane d'accéder à son rêve.
Parce que vous avez d'abord travaillé sur le Maroc, plus spécifiquement, avant là de...
Chez AXA, oui, mais avant AXA, j'ai fait le choix de faire plusieurs secteurs d'activité puisque j'ai démarré dans les télécoms. J'ai bougé en banque, puis en mine et en chimie, en ingénierie avant de devenir assureur.
Donc vous avez une vision large de l'économie et de l'innovation dans l'économie. L'un des principaux sujets du moment, c'est l'accessibilité des assurances pour tous les Africains et les Africaines. C'est l'un de vos combats et particulièrement dans les pays à faible revenu.
Tout à fait, puisque le taux de pénétration de l'assurance en Afrique reste parmi les plus faibles au monde. En moyenne, ce taux de pénétration, qui est en fait les primes des assurances divisées par le PNB d'un pays, ils sont à moins de 1% en Afrique en moyenne et pour une moyenne européenne autour de 10%. Donc beaucoup reste à faire. Et malheureusement, même ce 1%, il est concentré autour des grands comptes, très peu autour des personnes physiques. Et notre challenge au sein d'AXA, c'est d'amener une assurance, une micro-assurance inclusive qui permettent de couvrir et de prémunir du risque les plus démunis.
Donc là, vous parlez de l'assurance des personnes, l'assurance des biens, mais aussi l'assurance des investissements, c'est tout en général ?
Alors, tout à fait, puisque cette assurance inclusive, alors qu'on l'a pensée au début inclusive au sens micro-assurance, alors qu'on l'a pensée au début comme assurance pour les individus, se trouve aussi être indispensable pour les micro-entrepreneurs, leurs micro-entreprises et tout le développement de ce qu'ils ont fait.
Quand on pense assurance, on pense avant tout au secteur de la santé, qui a été au cœur de l'actualité ces dernières années. Au vu de la faiblesse de certains systèmes de protection sociale publique, comment se positionne le secteur privé ?
Alors, tout d'abord, je tiens à dire que la santé est peut-être la ligne assurantielle la plus en croissance dans le monde entier, et pas que l'Afrique. Et l'Afrique ne fait pas l'exception, puisque nous avons enregistré sur les 5-6 dernières années plus de 26% de croissance dans le secteur de la santé. Alors, on a en face plusieurs défis. D'abord, des populations qui n'ont aucune couverture nationale, au sens gouvernemental du terme, et donc il faut démarrer de zéro, et avoir des offres adaptées qui soient encore accessibles à ces gens. Et de l'autre côté, une offre hospitalière qui n'est pas aussi haut niveau. Et donc, et c'est là où AXA, un groupe comme AXA innove énormément aujourd'hui, puisque on a lancé il y a 5-6 ans en Égypte un concept que nous appelons One Health et qui est un réseau de cliniques propres à AXA, dans lequel nous essayons d'offrir le parcours client le plus smooth, optimiser les coûts, mais aussi et surtout amener des métiers de prévention dans la santé qui sont indispensables pour ces populations africaines.
L'autre grand risque du moment, ce sont les catastrophes naturelles qui se multiplient, dues notamment au changement climatique, pas que sur le continent africain, on a vu ce qui s'est passé en Espagne très, très récemment. Et puis on est ici à Marrakech, il y a eu un tremblement de terre dramatique avec des conséquences aussi importantes pour le secteur des assurances. Comment vous innovez, vous, face à ces nouveaux défis ? Qu'est-ce que ça vous impose ?
Alors c'est un sujet mondial qui s'accélère. Et donc, un groupe comme AXA aujourd'hui crée une vraie spécialisation dans ces types de risques qui s'appelle AXA Climate et qui accompagne dans ce qu'on appelle le paramétrique. Alors, c'est quoi le paramétrique ? Vous savez, couvrir des catnats, vous couvrez des assurés, donc vous le faites. mais il y a de la modélisation à faire pour évaluer le risque, prévenir, identifier les zones de risque en amont et pouvoir les adresser plutôt que de gérer les conséquences après. Mais par rapport à l'Afrique particulièrement, AXA Climate aide dans le paramétrique, c'est-à-dire accompagner les gouvernements à monter des assurances de catastrophes naturelles qui couvrent les populations non assurées. Et donc c'est exactement, par exemple,
ce qui s'est passé ici au Maroc
sur le séisme El Haouz, puisque AXA Climate avait travaillé avec le gouvernement marocain pour monter l'assurance pour le fonds de solidarité marocain contre les catastrophes naturelles.
Est-ce que l'intelligence artificielle, qu'on met parfois un peu à toutes les sauces en ce moment, est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut être un réel apport pour prévenir des risques ou pour gérer des situations d'urgence très globales comme une catastrophe climatique?
Alors, je ne vous répondrai pas juste en vous disant que c'est certain, mais je vous dirai peut-être que c'est la seule solution. Parce que, encore une fois, cette notion de prévention viendra par, d'abord, utiliser beaucoup de data et les utiliser dans une approche réactive, avec vitesse et avec intelligence, pour pouvoir identifier ces risques qui évoluent en permanence. Et donc, vous savez que, particulièrement pour les risques climatiques, un demi-degré de plus ou de moins peut changer totalement l'étendue d'une catastrophe. Et là, l'IA peut jouer un rôle primordial.
Aujourd'hui, être assureur, c'est accomplir beaucoup de missions. On l'a dit, assurer des biens, assurer des personnes, garantir des investissements, soutenir des entrepreneurs. Comment former des spécialistes de toutes ces disciplines? Et l'autre partie de la question, c'est quels sont les débouchés pour les jeunes Africains et pour les jeunes Africaines dans le secteur des assurances?
Alors, je ne suis assureur que depuis 5 ans et j'avoue que c'est un secteur auquel je n'avais jamais pensé avant. Et je pense que, d'abord, il est extrêmement important dans la communication que fait tout le secteur de l'assurance autour de ces métiers, de mettre le purpose, le sens de ce que nous faisons, le sens de notre métier au cœur. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont des générations X qui sont beaucoup plus demandeurs du fond que du pécunier autour d'un job ou du plan de carrière. Et donc leur rappeler qu'on est là pour protéger ce qui compte pour nos clients, pour nos populations, est d'abord un point de départ extrêmement important pour attirer ces jeunes. Le deuxième, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les nouvelles technologies, l'IA, deviendront de plus en plus indispensables et au centre de nos activités. Et ça fait que nous pouvons offrir maintenant des métiers beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractifs pour ces générations, pour qu'elles puissent nous rejoindre.
Donc vous cherchez des profils techniques, des personnes rompues à ces technologies, plutôt que des spécialistes de l'assurance en tant que telle?
On cherche tout. L'avenir de tous les secteurs, et l'assurance ne fait pas l'exception, c'est la diversité. Et en fait, il faut qu'on ait des experts en assurance, des actuaires, il faut qu'on ait des experts en gestion client, il faut qu'on ait des experts en finance, il faut qu'on ait des experts en RH, il faut qu'on ait des experts en IA, et il faut qu'ensemble on réussisse à travailler la main dans la main pour créer de la valeur.
Merci, Myriam Chami.
Merci à vous. À bientôt.
Myriam Chami, directrice pour l'Afrique de l'assureur AXA, dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Dans quelques minutes, nous parlons télécommunications et énergie, toujours en Afrique. Voici d'abord un duo sénégalo-malien et ce titre de circonstance, Assurance.
Madame Lou Guesso. Sama chéri coco nyanya Bila nyanya ka chéri coco nara Sama chéri coco nyanya
Assurance, c'était Sidiki Diabaté et Wally Bessek sur RFI.
RFI, les voix du monde.
Écho d'ici, écho d'ailleurs est à Marrakech à l'occasion du Choiseul Africa Business Forum pour réfléchir à des solutions concrètes afin de connecter les Africains entre eux et avec le reste du monde. C'est le cœur de métier du groupe Camusa, une entreprise française qui a confié à une jeune Sénégalaise, Aïda Diouf, ses ambitions africaines. Bonjour Aïda Diouf.
Bonjour Bruno.
Camusa, on pense avant tout aux infrastructures, télécom, ça n'est pas que ça.
Effectivement, Camusa est un acteur historique spécialisé dans les infrastructures télécom, présent dans une vingtaine de pays, dont 14 africains, et qui a toujours offert ses services aux opérateurs téléphoniques pour tout ce qui était design, fourniture, mais également gestion de leurs infrastructures télécom. Et depuis peu, Camusa, c'est également une société qui investit dans ces infrastructures et qui propose des solutions de gestion externalisée aux opérateurs avec un gros focus en Afrique sur les infrastructures énergie.
Et on va y revenir dans quelques instants. D'abord, l'état du marché des équipements télécoms en Afrique. On a une forte croissance du secteur avec l'augmentation de la consommation de services télécoms. Reste un défi majeur, celui de l'inclusivité. Permettre à tous les Africains et toutes les Africaines de bénéficier de ces infrastructures et ça n'est pas encore gagné.
Tout à fait. Secteur télécom, 2022, 8% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Et ça ne fait qu'augmenter, c'est un secteur en pleine croissance. Un secteur qui connaît aujourd'hui des défis assez importants face à l'augmentation, enfin à l'évolution de la technologie. On est dans une zone Afrique subsaharienne qui est encore dans l'implémentation de la 4G. La 5G arrive. On est également dans des défis effectivement liés à l'inclusion parce que on s'est longtemps concentré sur les zones urbaines. Aujourd'hui, le besoin, il est d'avoir des couvertures nationales qui permettent à tout habitant d'être connecté, peu importe qu'il soit en zone rurale ou en zone urbaine. Et tous ces éléments-là font que le secteur est soumis à des besoins d'investissement majeurs et à des besoins en consommation d'énergie aussi qui ne cessent d'augmenter dans un contexte où tout le monde s'intéresse aujourd'hui à l'empreinte carbone et dans un contexte où le secteur s'est engagé à être neutre en carbone à horizon de 2050.
Alors pour dépenser moins d'énergie, il vaut mieux produire au niveau local, il vaut mieux effectivement favoriser la production locale. Comment vous vous y prenez? Quels sont les outils que vous mettez en place pour permettre un développement local de vos infrastructures?
Alors, nous aujourd'hui, effectivement, dans la manière dont on approche ce sujet, on ne peut pas faire plus local puisque les solutions que nous allons offrir vont se concentrer sur le site télécom. Aujourd'hui, notre service vise à évaluer la qualité du grid, donc de l'énergie disponible à travers le réseau national, et ensuite à réfléchir les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour garantir une disponibilité d'une énergie stable à tout temps à toute heure, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'opérateur. Et donc, sur ce site télécom, on est vraiment dans de la gestion site à site, parce que c'est des sites totalement indépendants. Nous allons avoir des solutions solaires, nous allons avoir des solutions de générateurs, chose qu'on essaie de réduire de plus en plus. Et effectivement, Camusa est très engagé à avoir des sites avec zéro fuel à horizon 2050. Nous allons avoir des solutions de stockage, mais toute la réflexion qu'on va faire va se concentrer sur ce micro-site et va se passer sur ce site-là.
Aïda Diouf, l'un des grands enjeux du moment aussi, c'est l'intégration régionale, connecter les pays les uns aux autres, tant du point de vue des infrastructures télécom que du point de vue des infrastructures énergétiques. Est-ce que c'est une difficulté pour un groupe comme le vôtre qui intervient dans 14 pays africains ?
Alors, la difficulté, je pense que pour notre groupe, mais pour tous les acteurs de manière générale, lorsqu'on intervient à une échelle africaine, c'est qu'on est dans une disparité des modèles, une disparité des cadres réglementaires, et qui fait que la capacité à s'adapter est vraiment un élément fort pour réussir. Et donc, il est vrai que pour parler d'inclusion, on ne pourra pas parler d'inclusion régionale si on ne travaille pas à l'homogénéité des cadres réglementaires et pour permettre de traverser les frontières.
Et ça progresse quand même, à un rythme insuffisant, mais ça progresse quand même.
Alors oui, quand on est dans le cœur du réacteur, qu'on est sur le terrain, on considère toujours que ça va pas assez vite, parce que on a envie d'avoir de l'impact le plus rapidement possible, mais ça progresse et on le voit à travers plusieurs initiatives. Aujourd'hui, je pense que l'urgence qu'il y a à traiter des problématiques énergétiques en Afrique est connue de nos gouvernements, est connue de nos différentes organisations, et des organisations telles que l'Union africaine s'y intéressent et travaillent à établir un cadre plus prospère permettant aux acteurs d'avoir un impact à différents.
Ça veut dire qu'il faut aussi imaginer de nouveaux modèles de collaboration, parfois peut-être éviter ces problèmes réglementaires, collaborer davantage entre entreprises du même secteur.
Oui, ça sera forcément fondamental. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec les opérateurs. Ils ont une problématique très importante qui est la disponibilité de leur énergie. Ils la confient à un acteur tel que Camusa pour lui apporter des solutions, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que les réseaux nationaux répondent à ce besoin de stabilité. On parle beaucoup de partenariats public et privé, mais il faut également réfléchir aux synergies à créer entre les acteurs du secteur privé.
Alors, l'une des grandes expressions du moment, c'est aussi grâce à l'IA. Grâce à l'IA, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger. Qu'est-ce que ces technologies peuvent apporter dans votre domaine au bénéfice de la préservation de l'environnement et de notre planète ?
C'est vrai que c'est le sujet du moment, et à raison, parce que l'IA peut vraiment changer la donne pour beaucoup d'acteurs. Dans le secteur télécom, ça peut participer à énormément de sujets tels que les gestions des bandes passantes, l'optimisation énergétique, la maintenance prédictive, qui sont tous des éléments qui participeront à avoir une énergie de plus en plus efficiente et donc une réduction de l'empreinte carbone. Maintenant, c'est une révolution dont il ne faut pas qu'on rate le coche, mais il faut quand même qu'on s'assure que les prérequis nécessaires soient là. On est en train de vivre une révolution de l'IA, mais beaucoup de pays africains sont encore en train d'être dans leur révolution du digital. Et donc les compétences et l'éducation seront des éléments nécessaires si on veut se saisir de cette opportunité.
Ça veut dire que c'est le rôle de grands groupes comme le vôtre de former les jeunes talents ?
Alors, nous, au-delà du rôle, c'est une nécessité. Lorsqu'on a des besoins concrets qui sont là et qui sont nécessaires pour l'évolution de notre business, on y répond. Et donc, effectivement, la formation aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on embarque vraiment dans notre approche. Il est nécessaire que l'on forme nos équipes. Aujourd'hui, Camusa, il faut savoir que dans nos filiales, on a en moyenne 95% d'employés locaux. Donc forcément, on les accompagne avec les compétences qui sont nécessaires à travailler avec nous au quotidien.
Merci Aïda Diouf.
De rien, merci à vous.
Aïda Diouf, directrice exécutive de Camusa pour l'Afrique. Camusa, c'est 2000 collaborateurs dans le monde, la moitié basée sur le continent. Avant de découvrir nos deux derniers intervenants venus du Congo-Brazzaville, je remercie au passage les organisateurs du Choiseul Africa Business Forum pour leur aide lors de ce tournage. Et puis un rappel pour vous, fidèles de nos entretiens vidéo avec des acteurs de l'économie africaine, parmi les derniers à être passés dans notre studio, Ismaël Nabé, le ministre du Plan et de la Coopération Internationale de Guinée, Thiers Nothioune, économiste sénégalais. Et puis, encore plus récemment, Cheikh Cissé, champion du monde de taekwondo pour la Côte d'Ivoire, double médaillé olympique, et aujourd'hui des projets de reconversion dans le business et le management. L'homme de Rio, comme on le surnomme, est désormais diplômé de l'EM Lyon, l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Voici un extrait de l'interview.
Pour moi, il est important de concilier sport et études, parce que voilà, on est à ce niveau de carrière, on est emmené à transmettre. Mais il ne faut pas seulement avoir le niveau, il faut aussi en avoir dans la tête. Et c'est important d'avoir tous les acquis pour pouvoir transmettre et transmettre au mieux. Et c'est ce qui, un peu, je pense, ce qui fait défaut à l'Afrique. Le vizier, il est là. On a beaucoup de jeunes très talentueux. Mais le management, comment les manager? Comment manager le sport? J'ai eu la chance aujourd'hui de faire près de 8 ans en Espagne. Et j'ai vu un peu comment le sport est. C'est pas seulement venir s'entraîner et lancer des coups de pied. C'est au-delà de ça. Et c'est ce que j'ai pu apprendre. Et pour moi, il était primordial de continuer et de me former afin de, voilà, pourquoi pas, après, conseiller le ministère des Sports, le gouvernement ivoirien, dans la stratégie du sport.
Vous voulez manager des équipes. Parce que c'est vrai que quand on est athlète, on a une équipe autour de soi, mais on est quand même concentré sur sa propre performance.
Exactement.
Là, vous voulez changer de rôle.
Changer de rôle, c'est important, parce que comme je l'ai dit, il y a du vivier, mais il faut coacher des jeunes, il faut faire la détection, il faut les mettre dans les conditions. Et pour ça, on n'apprend pas ça dans les rues, ça s'apprend en classe. Et voilà, je suis toujours ouvert pour mon pays, pour mon continent. Et aujourd'hui, j'ai eu un bachelor en business administration. Je fais un MBA en stratégie d'entreprise. Et voilà, on ne sait pas. L'appétit vient en mangeant, on ne sait pas ce que ça peut devenir demain. Mais voilà, j'essaie de mettre la chance de mon côté pour, pourquoi pas, pour pouvoir aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour moi qu'il y ait une relève qui puisse faire plus que moi.
Cheikh Cissé sur RFI, entretien vidéo à découvrir dans son intégralité sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique « Les invités de l'économie ». Le champion ivoirien révèle aussi ses projets d'avenir sportif. Ira-t-il au JO 2028 à Los Angeles ? Il commente également la crise au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Retour à présent au Choiseul Africa Business Forum à Marrakech. Et nous allons à la rencontre d'un entrepreneur venu, lui, du Congo-Brazzaville, plein d'énergie. Il a un peu tâtonné avant de trouver sa voie, la finance, dans un pays où investir n'est pas nécessairement chose la plus facile. Son nom, Gilles Tchamba, c'est le président directeur général du groupe Larcher. Et il nous raconte son chemin, son histoire, née à l'époque tourmentée du Covid.
Le groupe Larcher, c'est un groupe d'investissement et de financement qui a été créé à l'initiative d'experts financiers au Congo-Brazzaville. Nous avons répondu à un besoin, c'est celui d'apporter de la liquidité pendant une période où on savait que les États et les entreprises étaient dans le besoin. Et donc le rôle qui a été le nôtre, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de par une offre innovante. Et ce qui fait notre groupe, c'est que c'est un rassemblement de passionnés à la fois de la finance et de l'Afrique. Parce que nous avons pour objectif de transformer notre environnement, de bâtir des économies africaines fortes.
Parce que la zone CEMAC a été, d'un point de vue économique, encore plus touchée que les autres pendant le Covid ?
Plus touchée que les autres, ce ne serait pas ce qu'on dirait, mais le besoin s'est fait sentir. Parce que nous sommes dans une zone où la majeure partie des économies sont exportatrices de pétrole. Et ça fait que pendant cette période, il y a eu de moins en moins d'entrées, mais les besoins des États étaient là. Et il fallait donc répondre aux besoins que les États avaient pendant cette période. Et c'est de là qu'est né le projet Larcher.
Qu'est-ce que représente votre groupe sur le marché financier régional ?
Sur le marché financier régional, aujourd'hui, l'Arche, c'est environ 2000 milliards de francs CFA, ce qui représente 3 milliards d'euros environ. C'est environ 3 milliards d'euros qui ont été levés de 2020 jusqu'à ce jour. Et si nous avons pu réaliser ce type de performance, c'est justement dû à un engagement que nous avons et que nous retrouvons au sein de toute notre équipe, qui est une équipe de jeunes, dynamiques et passionnés de l'Afrique.
Quelles entreprises font appel à vos services, si on devait faire une classification ?
Tout type d'entreprise fait appel à nos services. La discrimination se trouve au niveau des montants. C'est que les financements auxquels nous engageons, ce sont des financements qui commencent à partir de 5 milliards jusqu'à plus haut. Ce qui fait que on répond beaucoup aux besoins des États, des municipalités, des entreprises dans le cadre de l'augmentation de capital. Nous accompagnons aussi l'augmentation de capital pour le compte des fonds de garantie. Et ça fait que notre groupe, c'est vraiment un groupe qui est très engagé dans la transformation de l'Afrique. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une opération, par exemple, de la B2AC, qui a consisté à faire une levée de 50 milliards de francs CFA pour son projet à Zobé, et un projet qui a permis l'intégration, qui travaille à l'intégration régionale de la zone CEMAC.
L'un de vos métiers est donc de gérer des fonds en bourse. La place financière régionale, elle est à Douala, au Cameroun. Est-ce que vous constatez une hausse des levées de fonds dans l'espace CEMAC ?
Il y a effectivement une augmentation des levées de fonds dans l'espace CEMAC, et cette augmentation est due au fait que de plus en plus les acteurs se rendent compte que les solutions ou les réponses aux besoins de financement ne peuvent pas venir que de l'extérieur. C'est qu'au sein même de la zone CEMAC, il y a une capacité de lever. Il y a des acteurs qui croient dans l'Afrique et qui croient dans l'investissement en Afrique.
Et donc ne pas compter que sur les banques commerciales.
Tout type, nous arrivons à lever auprès de tout type d'investisseurs. Il y a les banques commerciales, il y a les investisseurs institutionnels du type compagnie d'assurance, fonds de pension et autres qui participent justement au financement de l'investissement en Afrique.
Alors, l'innovation dans l'industrie financière, elle se développe, l'innovation de façon générale, hein, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser énormément de choses. À quoi croyez-vous dans ce domaine ?
Bon, déjà, chez nous, l'innovation ne se limite pas au seul niveau technologique. C'est aussi dans les procédés, dans notre manière de faire, dans notre offre. C'est l'innovation, pour nous, consiste aussi à apporter dans notre sous-région des produits ou des réponses qui n'étaient pas encore présentes jusqu'à maintenant. C'est de dire, aujourd'hui, on va pouvoir donner la possibilité à toutes les personnes qui font de l'investissement d'aller au-delà, par exemple, des valeurs mobilières. Jusqu'aujourd'hui, tous les types d'investissements qui sont faits sont limités aux valeurs mobilières. C'est de dire qu'il y a aussi des éléments comme l'immobilier, comme le capital investissement, qui sont des alternatives importantes à l'investissement dans notre sous-région. Au-delà de ça, il y a justement ces aspects qui sont purement technologiques. Et dans ces aspects, dans ce cadre-là, nous avons une foi importante dans ce que l'investissement dans les valeurs technologiques va être la réponse pour demain et va nous inscrire dans le processus de développement. Et vous verrez que dans le cadre de notre fondation, nous avons financé une école qui s'appelle Okalobe School. Et cette école forme des jeunes dans les métiers de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de l'administration du cloud. Et nous avons formé 10 jeunes, dont 2 d'entre eux viennent d'être placés. Et pour l'année prochaine, nous allons former entre 100 et 250 jeunes dans ces métiers de cybersécurité, d'intelligence artificielle et d'administration de cloud.
Et on va y revenir dans quelques minutes. L'innovation, c'est aussi lutter contre toutes les fraudes. C'est favoriser la transparence, c'est favoriser la réglementation aussi du marché.
Oui, justement, l'innovation, c'est aussi présenter l'institution financière sous un autre angle. C'est de montrer qu'on peut faire de la finance, parce que peu de gens le savent ou le pensent aujourd'hui, mais ce qui est notre mission et notre engagement, c'est de montrer que nous sommes capables de faire de la finance dans, en toute clarté et en toute conformité. Parce que les normes de conformité, c'est de rappeler quelles sont les normes qui sont non négociables. Et nous nous inscrivons et nous investissons énormément dans le développement des équipes, dans la formation des équipes et dans l'équipement de notre personnel en outils pour justement encadrer ou renforcer le dispositif conformité.
Dernière question, Gilles Tchamba, comment vous voyez l'économie de votre pays, le Congo-Brazzaville, disons dans quelques années? Est-ce que vous voyez une économie basée davantage sur les services, davantage basée sur d'autres industries que l'industrie pétrolière? Quel secteur, selon vous, le vent en poupe, vers quoi on va, puisque vous êtes au contact des entreprises?
Bon, la vision de l'archer, c'est participer à bâtir des économies africaines fortes. Et ce que nous appelons une économie forte, c'est une économie qui crée structurellement de la valeur et qui développe une forme de résilience. Et nous ne pensons pas que demain, on sera spécialement dans les services, spécialement dans l'industrie. Mais notre travail à nous, c'est de financer l'économie de sorte à provoquer la diversification.
En tout cas, moins dépendante des hydrocarbures.
Moins dépendante des hydrocarbures. C'est un challenge que nous avons et c'est quelque chose que nous pensons qui est possible. Parce que de plus en plus, on est en train de voir cette transformation s'opérer. Et notre joie à nous et notre plaisir à nous, c'est d'accompagner cette transformation de par une offre qui est diversifiée et de par un accompagnement qui est renforcé et de plus en plus innovant.
Et donc s'appuyer sur la jeunesse congolaise qui n'est pas très visible au niveau international.
La jeunesse congolaise, c'est même cela notre atout. Parce que un des facteurs clés de notre succès, c'est de rassembler une génération de jeunes passionnés à la fois de la finance et de l'Afrique. C'est faire que notre travail aujourd'hui, il n'est plus seulement un travail de saisie d'opportunités, mais on sent que lorsque tous les jours on travaille, on est engagé dans une action qui est à la fois visionnaire et missionnaire.
Gilles Tchamba, directeur général du groupe L'Archer, qui est donc décidé à financer celles et ceux qui veulent faire émerger le Congo sur la planète économique. Parmi eux, un de ses compatriotes au parcours étonnant, vous allez l'entendre, Luc Okalobe, à la tête d'Okalobe School. C'est une école de formation au métier du cloud, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. Son objectif, former un maximum de talents congolais.
Mon histoire démarre dans la Silicon Valley, où j'étais cloud et AI ingénieur pour Apple, TikTok, Pinterest, Salesforce et pas mal d'entreprises. Et j'ai même eu l'expérience de vivre l'entrée en bourse avec des compagnies. Donc voilà, ça commence de la Silicon Valley.
Quelles années ?
De 2006 à il y a deux ans, donc de 2006 à 2022.
D'accord. Ça s'est interrompu avec le Covid ou d'autres facteurs vous ont ramené sur le continent africain puisque c'est ça votre histoire?
L'élément déclencheur pour mon retour au Congo était quand je travaillais chez TikTok en tant que cloud ingénieur. Je me suis rendu compte qu'en fait que toute leur infrastructure cloud, pratiquement toute, a été développée avec des outils accessibles aux Africains. Et je me suis dit mais pourquoi pas utiliser mon expérience de ces 15 années, repartir en Afrique. De la même manière qu'on m'a formé chez Apple, TikTok et le reste, former ces jeunes Congolais au cloud, à l'AI. C'était l'élément déclencheur, c'était l'amour du pays. Mais en même temps, en fait, j'ai vu que ce n'était pas magique ce qui se passait dans ces grosses entreprises.
On se dit quand même que dans la Silicon Valley, il y a une infrastructure, il y a des écoles d'ingénieurs, tout simplement du matériel disponible pour former beaucoup de monde en peu de temps. Forcément, au Congo-Brazza, ce n'est pas exactement le cas.
En fait, en étant dans le monde tech, vous savez, vous avez souvent des outils que vous utilisez, comme Mozilla. Il y a des outils cloud que vous utilisez qui ont été développés tous en ligne par des millions de volontaires dans le monde entier. Donc, mettre en place un système pour former des gens par milliers, on n'a pas trop besoin d'infrastructures. On a besoin d'infrastructures physiques pour des spécialisations ou pour développer des soft skills, pour l'accompagnement personnalisé. Mais pour la vulgarisation des technologies, ça se fait depuis plus de 40 ans.
Donc il suffit quoi, d'un ordinateur classique ?
Il suffit juste d'un appareil qui a un écran, qui a un accès à Internet. C'est tout.
Ok, donc vous êtes arrivé il y a environ deux ans. Qu'est-ce que vous avez fait précisément depuis ?
Donc il y a deux ans, je rentre. Je monite un peu le Congo pour voir qu'est-ce qui est possible. Et je parle à mes amis que je voudrais faire le NASA. J'ai fait le NASA Hackathon à San Francisco, c'est-à-dire une conférence tech qui est promue par la NASA, donc l'Agence spatiale américaine, que j'organise à San Francisco. Et quand j'en parle au Congo, on me dit, mais si tu fais ça ici, les jeunes vont affluer, ça n'a jamais été fait. Et d'autres me disaient, mais oui, si tu le fais, ça ne marchera pas parce que les Congolais ne sont pas talentueux, ne sont pas tech, ils te feront du Excel et du Word. Mais moi, ça m'a touché, je suis Congolais. Pour moi, c'était dénigrer en fait ma compétence. Donc j'ai décidé de le sponsoriser tout seul. Je l'ai organisé, je m'attendais à 20 jeunes, j'en ai eu 108. Et donc je me suis dit, à la suite de cet hackathon, il y a une possibilité d'une continuité. Et j'avais commencé déjà à parler d'un concept d'école qui forme et qui place à l'emploi. Et je me rappelle dans les interviews, je disais, imaginez, vous êtes une maman, vous avez un fils qui a eu son diplôme, a eu son bac. Vous rêvez forcément de l'envoyer en France. Imaginez que cet enfant reste au Congo, mais acquiert des compétences internationales en étant au Congo et arrive même à trouver un emploi. C'était les fondations de ce que je fais aujourd'hui.
Le frein principal pour vous, il a été financier pour pouvoir grossir encore. Comment est-ce que vous avez fait ?
Le frein était financier et aussi des partenaires financiers qui partagent la même passion et la même vision. Parce que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de patients concentrés dans un espace précis et il y a de l'argent et des talents autour. Et donc moi, mon blocage était ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Tchamba du groupe Archer, qui avait la même passion, okay, et qui m'a même réactivé parce que ma passion de Silicon Valley commençait à baisser. Et c'est ça qui manquait, c'était le côté financier et surtout le côté patient avec des personnes qui pensent pareil.
Gilles Tchamba, on vous retrouve. Comment vous avez vu arriver ce jeune homme avec ses idées qui, aux yeux de beaucoup, pourraient passer pour fantaisiste ?
Bon, je me souviens, j'ai rencontré Luc pour la première fois dans un restaurant présenté par un ami. Et j'ai tout de suite reconnu ce que nous recherchons chez Larcher, parce que c'est de faire émerger des talents en Afrique pour pouvoir porter et emmener le rayonnement de l'Afrique à des niveaux qui vont changer la perception que le monde a de notre continent. Et donc quand je rencontre Luc pour la première fois, je vois un Archer, mais dans le domaine de la tech. Et tout de suite, je lui demande ce qu'il comptait faire. Et lui, il me parle de ses difficultés, des difficultés qu'il rencontre, des démotivations qu'il a eues à cause de certains challenges qu'il a eu à rencontrer. Et à ce moment, je lui dis, c'est vrai que c'est dur, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Et je lui ai parlé de notre aventure, comment est-ce qu'elle a commencé et quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, mais comment est-ce que, par la passion, on a pu dépasser au fait tous les challenges que nous avions. Et tout de suite, je lui ai proposé notre accompagnement. Et ça n'a pas seulement été un accompagnement financier, autour de 150 000 euros par là. C'est pas grand chose. Je lui ai offert notre engagement à accompagner le projet qu'il avait, parce que c'était un projet qui répondait aux aspirations que nous avons de voir l'Afrique rayonner dans tous les domaines qui sont censés porter notre économie en avant.
Alors, je reviens vers vous, Luc Calobé. Précisément, quels sont vos objectifs ?
Le chiffre que nous avons en tête, je veux déjà le dire pour savoir où on va. Et ça demande un leadership que le groupe Archer et moi doivent mener. C'est le chiffre de 10 millions. 10 millions de formés dans les technologies de cloud et de l'AI.
À l'échelle africaine.
L'échelle africaine. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait que le continent africain soit la référence des talents numériques dans le monde. La Chine, en ce moment, a 7 millions. L'Europe, je crois, 6 à 7 millions. L'Europe a 5 millions et les US en 4 millions. L'Afrique n'a que 700 000 personnes. Et quand j'ai étudié un peu le marché, il n'y a pas de leadership. Quelques pays font 1 million, 200 000, 300 000. On aimerait arriver à cette conversation. Mais pour arriver à cette conversation, on doit faire nos pas. On a commencé avec 15. On forme et on place. Tout le pipeline est fait. Tout le circuit est fait. Et après, on passe à 100, 1000. Mais on va arriver à 10 millions un jour.
Il y a quand même des initiatives aujourd'hui sur le continent africain, dans un certain nombre de pays. Le Maroc, par exemple, il y en a d'autres. Est-ce qu'il faut se mettre ensemble, tout simplement?
Tout à fait. Il faut créer un écosystème et l'écosystème a besoin de se connecter. Le langage, j'aimerais qu'on parle tous de le même langage. Le langage doit être, les talents deviennent en Afrique, doivent être d'ordre de sécurité nationale, sécurité continentale. Il faut que chaque pays puisse se dire, nous allons former 3 millions, 2 millions par rapport à la population. Ça doit être de la même urgence, de la même façon dont on a pris le Covid. Il faut qu'il y ait ce sens d'urgence pour les talents. Et je ne le vois pas, en fait. Donc, il faut qu'il y ait un leadership qui naisse pour appuyer cette initiative.
Merci, Luc Okalobe.
Merci beaucoup.
10 millions de spécialistes africains du cloud et de l'intelligence artificielle. C'est l'espoir de Luc Okalobe. L'avenir lui donnera-t-il raison ? L'intelligence artificielle rend-elle les entreprises plus productives? Les promesses de l'IA générative sont-elles déjà tenues, du moins aux yeux des investisseurs? Et que devient OpenAI, le symbole de cette possible révolution? On en parle dès la semaine prochaine avec nos invités dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et justement, avant de se quitter, la preuve que l'IA est déjà là, dans nos vies, disponible sur nos claviers, j'ai demandé à un générateur de musique et de paroles de créer une chanson sur votre émission, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sans donner la moindre indication. Voici le résultat, simplement pour s'amuser.
Toujours à la radio, je vous entends parler des marchés qui s'envolaient comme on dit au à capter, les devises qui fluctuent, les bourses en tension. Vous décryptez les chiffres avec tant de passion. Vous parlez d'inflation, de dette, de PIB. Les banques centrales veillent, les traders sont habiles. Quel est le taux du jour, où va la croissance? Vos analyses précises m'offrent tant de science. Écho d'ici, écho d'ailleurs, pour comprendre le monde et ses valeurs. Écoutez ces voix qui éclairent nos heures, les secrets de l'économie au cœur. Entreprise qui monte, celle qui décline. Prédiction future, un peu de devin. Les politiques monétaires guident la danse. Vos mots résonnent, donnent sens à l'errance. Du pétrole aux nouvelles technologies. Commerce international et ses dynamiques. RFI sur vos postes, je vous suis de près. J'apprends des mondes lointains tout en restant discret. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Pour comprendre le monde et ses valeurs. Écoutez ces voix qui éclairent nos heures. Vos analyses précises m'offrent tant de science. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Pour comprendre le monde et ses valeurs. Écoutez ces voix qui éclairent nos heures. Les secrets de l'économie au cœur.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, une chanson écrite et interprétée par l'intelligence artificielle à partir de ce que le logiciel a pu détecter sur les moteurs de recherche, c'est disons à la fois amusant et vertigineux. Où est la limite? Je vous laisse donc à vos réflexions et vous donne rendez-vous en chair et en os samedi prochain avec nos invités pour un décryptage de ce phénomène d'un point de vue économique. Merci à Adrien Toureau pour la réalisation de cette émission. Restez connectés, voici tout de suite le journal Les dernières nouvelles du monde réel sur Radio France Internationale.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.